C'est qui cette équipe-là?
Ouais, ils sont combien?
Pour le, en ce moment, c'est 90 personnes.
OK, tu vois, moi je pensais que c'était Richard puis Maurice dans leur sous-sol qui avaient décidé de faire ça. Là. OK, c'est correct.
L'objectif est que dans un deuxième temps, là, ils relâcheraient l'ensemble de la campagne.
Fait que ce que tu dis, juste pour qu'on soit bien clair, si je comprends bien, c'est on fait une petite intro vraiment courte, puis ensuite, on fait tout.
Ouais. Donc, tu sais, quand on parlait de ressusciter quelque chose qui est mort, c'est vraiment quelque chose qui est arrivé avec Bloodline, puis c'est...
Ça tombe bien, c'est des vampires.
Dans cet épisode, on parle des jeux de rôle dans les jeux vidéo avec Dave, qui travaille chez Ubisoft depuis 15 ans, et un hack de la semaine terrifiant.
Bon, cette semaine, je pense que Flamme, tu veux nous parler de jeux vidéo et t'as invité quelqu'un.
Donc oui, cette semaine, on va surtout atteindre des, parler de jeux de rôle, mais de jeux de rôle dans les jeux vidéo. Et on a invité pour l'occasion David Kadouri, qui est justement dans le milieu, dans l'industrie du jeu vidéo, pour pouvoir avoir certaines opinions pour compléter un petit peu notre épisode de la semaine.
Salut David, ça va bien?
Bonjour, ça me fait plaisir d'être ici, merci de m'avoir invité.
Ça fait du bien parce que moi, j'ai aucune idée de quoi qu'il avait nous parler, puis c'est ça, au moins quelqu'un qui connaît un peu ça, ça va aider un peu. Là. Fait que moi, je suis prêt à faire des... Ah oui? Fait que, on commence par quoi, Flamme?
Ben, on va commencer rapidement en parlant d'un jeu vidéo avec l'équipe de Critical Role. Donc, ça a été confirmé par Travis Willingham, qui est, si je me rappelle bien, le mon Dieu, PDG, je pense que c'est c'est le PDG de la compagnie, et qui a confirmé qu'il y avait un jeu qui était en production, qui va se passer dans Alexandria. Et l'Internet en parle beaucoup de ce sujet-là.
Puis, y a-tu de l'info?
Mais il n'y a pas d'infos, on ne sait pas vraiment. on sait pas vraiment avec quel système, quelle maison de production va le faire, quand est-ce que ça va être fait. On ne sait pas quel genre de jeu.
Moi, je parie que c'est Daggerheart.
Oh. Toi, tu paries que c'est Daggerheart? C'est un bold take. Pourquoi tu paries ça?
Parce que j'ai le goût de me faire une bouteille de vin.
Ah, on peut pas. Let's go. On mise une bouteille de vin qu'ils utilisent leur système maison qu'ils ont construit eux-mêmes. Ce que j'aimerais beaucoup. Mais oui, tout ça pour dire que pour le moment, le monde spécule puis ça fait beaucoup de jasettes sur Internet pour pas grand-chose. Ils ont dit qu'on allait croiser des personnages qui existent déjà. Et que les choix, les décisions qu'on va prendre vont avoir de l'impact sur l'histoire.
OK. Mais on n'a aucune idée. C'est-tu un RPG genre Baldur's Gate? C'est-tu un RPG un peu comme l'histoire de, mettons, Walking Dead, là, que c'est des épisodes que tu choisis gauche-droite? T'sais, on sait rien, là.
Puis, c'est pas super évident de faire des jeux où est-ce qu'il y a de l'impact, où est-ce qu'on a un impact sur l'histoire, parce que ça peut vraiment augmenter considérablement le travail que ça prend pour construire un jeu vidéo comme ça. Donc, pour une petite... C'est pas si gros que ça, là, Critical Role. Donc, ils réussissent en général, mais ça a l'air ambitieux comme ça. Je sais pas, qu'est-ce que tu peux nous dire, Dave, au sujet de ce genre de jeu-là?
Ben, si on parle d'un jeu de l'ampleur de Baldur's Gate, en effet, c'est immense. Là. Si on regarde le nombre d'opportunités qu'il y a dans le jeu lui-même, c'est exponentielle. En fait, moi, je suis un peu les nouvelles sur Internet quand je regarde justement qu'est-ce qui sort dans Baldur's Gate ici et là, parce que secret, j'ai l'intention de faire une campaign de D&D de Baldur's Gate éventuellement. Mais quand je regarde, pour avoir une idée, les gens semblent encore découvrir des choses que personne, avec des guillemets, personne, sait déjà que c'est faisable dans le jeu tellement il y a d'options. Ça fait juste donner une idée de l'ampleur du voice acting que ça doit être fait, des animations qui viennent avec, de tout ce qui vient. Fait que c'est sûr que si t'as pas une équipe rodée ou du moins une équipe suffisamment grosse avec des bonnes bases, ça va être difficile.
Mais là, s'ils vont chercher l'Arian Studio, ceux qui ont fait Baldur's Gate.
S'ils vont chercher l'Arian Studio, ils ont déjà fait leur preuve, ils devraient être capables.
OK. Mais on rentre vraiment dans le monde de la spéculation, alors quand on va avoir plus d'informations sur le sujet des jeux vidéo avec Critical Role, on vous tient au courant, mais ça se peut qu'on attende longtemps. C'est combien de temps d'habitude un jeu vidéo?
Faire un jeu vidéo, c'est long. C'est sûr que ça dépend de l'ampleur, ça dépend de l'équipe. Je vous dirais, en général, ça prend facilement 5 ans.
Fait que si c'est en production, ça se peut que ça fait 3 jours qu'ils en ont parlé, ça a commencé la production, fait qu'on ça pourrait prendre jusqu'à 5 ans pour que le jeu se développe. Alors, on vous prévient, dans 5 ans, quand le podcast va avoir explosé et va être incroyablement populaire, on va vous revenir avec plus d'informations.
Justement, on parlait de Baldur's Gate 3. Et je pense qu'il y a un projet qui s'en vient, un genre de mode, quelque chose comme ça, là, que tu as entendu parler, oui. Je pense.
J'ai pas juste entendu parler. Donc, j'ai parlé à quelqu'un sur l'équipe de Project Strahd. Donc, okay. C'est quoi Project Strahd? C'est un mode pour Baldur's Gate 3, carrément plus qu'un simple mode où est-ce qu'on ajoute quelques options, des nouvelles armures ou que ça change des règles. C'est carrément un jeu en soi. Et l'objectif est de reproduire la campagne qu'on connaît et qu'on adore et d'importer cette campagne-là pour qu'elle soit jouable avec Baldur's Gate 3.
Moi, je l'ai roulé 2 fois, cette campagne-là, à date.
Curse of Strahd. Excuse-moi. Oui. Puis donc t'en connais bien?
Je pense que oui. J'ai une bonne. Je suis rendu que si j'ai pas mon matériel, je peux quasiment improviser des bouts de la campagne parce que je la connais. Fait que c'est pas super.
Mais écoute, je pense que ça va être utile parce que on va rentrer dans c'est quoi les ambitions pour ce mode-là. Et j'ai bien hâte de voir ton take là-dessus. Fait que.
Vas-y, continue. Amène-nous du
jus. Continue. Ben, écoute, je vais donner du jus. En ce moment, qu'est-ce qui est prévu? C'est que pour cette année, donc autour de la fin du printemps, début de l'été, il va y avoir une première partie qui est jouable. Ça va être la défense. Donc, il commence en force ou il commence létal, peu importe comment vous voulez voir. Et l'objectif est que dans un deuxième temps, là, il relâcherait l'ensemble de la campagne.
Fait que là, ce que tu dis, juste pour qu'on soit bien clair, si je comprends bien, c'est on fait une petite intro vraiment courte, puis ensuite, on fait tout. C'est comment devenir président en 2 étapes. Étape numéro 1, décider de devenir président. Étape numéro 2, le faire.
J'imagine qu'en ce moment, et si j'ai bien compris, ils sont quand même en train de travailler déjà sur tout le jeu, mais la partie qui va être présentable, ça va être la défense au courant de l'année, puis au courant de l'année prochaine. Ils ont quand même l'intention, l'ambition, je devrais dire, de remettre le reste de la campagne. Puis là, j'ai vraiment demandé, est-ce qu'on parle du reste de la campagne? On parle de quand même un squelette qui est quand même intéressant. Le village de Barovie, le Bone Grinder, peut-être Valaki, le château. Ça, là, ça serait...
C'est ça.
C'est en masse, là. T'es pas pire. Tu veux rajouter un moment donné le vignum, peut-être? OK, tu sais, c'est... Mais là, on parle de rajouter le... Je pense qu'il y a une autre ville. Il y aurait peut-être...
Babalissaga
dans les marais. Donc, tu sais, c'est gros, là. C'est gros, ça, Curse of Strahd.
Ouais, mais là, tu sais, mettons... Il ferait pas la carte comme si... Tu sais, il y aurait des voyages, j'imagine. Tu as pas des sentiers pour te rendre.
C'est une méchante bonne question, mais ça se peut qu'il y ait du voyage dans Curse of Strahd.
J'espère. ça enlève un peu d'ouvrage, sinon c'est terrible.
Ça, de faire des sauts, ça enlèverait un peu d'ouvrage, mais ça enlèverait un peu d'ambiance. Je pense que circuler dans Curse of Strahd, ça fait partie de l'atmosphère.
Mais, dans un troisième temps.
Dans un troisième temps. On va voir. On va voir où est-ce qu'ils en sont. Donc, c'est qui cette équipe-là?
Ouais, sans compter.
Mais pour le, en ce moment, c'est 90 personnes.
Ah, OK.
Et okay. Dont 50 voice actors.
Okay. Donc, tu sais, quand David... Je pensais que c'était Richard puis Maurice dans leur sous-sol qui avaient décidé de faire ça. Là. OK, c'est correct.
Non. Mais à vrai dire, c'est des professionnels qui sont soit dans le domaine du jeu vidéo ou adjacent au jeu vidéo. D'ailleurs, on a Travis Savoie, notre compositeur de musique d'ambiance. D'ailleurs, c'est cette personne-là que j'ai rencontrée et qui m'a parlé du mode de Project Strahd. En tout cas, qui m'en a parlé en plus profondeur, parce que sur Internet, il en parlait déjà un peu. J'avais été regardé. Mm-hmm. Et lui, ensuite, m'a suite à notre épisode où est-ce qu'on avait fait sur l'ambiance musicale, j'avais fait quelques suivis avec lui à propos de Describe et Opus de Describe. Mm-hmm. Et j'en ai profité pour parler de Project Strahd. Donc, c'est là où est-ce que j'ai obtenu plus d'informations sur vraiment c'est quoi leur équipe, c'est quoi leur intention. Donc, c'est entièrement bénévole. Hein. Donc, c'est 90%, pas 90 personnes entièrement bénévoles. Et à partir de cette semaine ou la semaine dernière, à peu près maintenant, ils devraient en ce moment être en train de faire une deuxième vague de recrutement. Donc, ils ont l'intention de grossir encore l'équipe. Personnellement, je ne m'attendais pas à ce qu'un mode demande autant de gens.
Ben, la vraie question, là, c'est l'Ariane Studio, quand ils ont fait Baldur's Gate, il y avait combien de gens dans leur équipe?
Ouais.
Ouais, c'est une méchante bonne question. Tu le sais-tu, toi?
Faudrait regarder le générique, mais je suis pas mal sûr qu'il est plus long que 90 personnes.
Ah oui, ces affaires-là qui n'arrêtent pas là, de passer. OK, c'est un très bon point. D'accord. Le soudainement 90 personnes, ça a plus l'air beau.
Mais c'est sûr que c'est moins gros Strahd que Baldur's Gate. Il y a quand même moins de. Mais il va y avoir beaucoup de création d'adaptation. Parce que, tu sais, je veux dire, il faut créer les dialogues avec les personnages qui n'existent pas, dans le fond, tu sais, dans la quête. Il n'y a pas tant de dialogues que ça. Là. C'est plus des hints sur comment faire. Tu sais, Strahd, ils ne disent pas genre toutes les phrases qu'ils disent, puis toutes les réponses.
Non, c'est beaucoup de création.
Mais l'autre chose, c'est que. Ils ont-tu le droit d'utiliser des vraies affaires?
Ben, étant donné qu'ils ne font pas d'argent sur le mode, donc le mode devrait être gratuit, ils ont le droit de produire, puis tu disais ça comme une version de comme fan, tant qu'ils font pas de profit là-dessus, puis qu'ils disent que ça appartient, j'imagine, à D&D, puis que Baldur's Gate appartient à D&D aussi, finalement.
Pour pas trop tomber dans le sujet trop fort, mais tu sais, j'imagine que David aussi il est au courant de ça, dans le sens que tu as des IP, dans le fond, là, que tu as certaines choses que tu peux avoir le droit. Mettons, je sais pas, ils peuvent sortir un jeu, puis après ça, ils sortent un jeu de société, puis tout, il faut que tu achètes bon, pour faire le jeu de société, etc. Sauf que là, Wizards of the Coast sont assez réputés pour mettre des bâtons dans les roues dans des affaires un peu plus petites que ça.
Oui, donc les créateurs de contenu ont eu des mauvaises expériences avec Wizard of the Coast et Hasbro. Ouais.
Et c'est pour ça que je me demandais juste s'ils s'étaient renseignés un peu d'avance, parce que ça se peut qu'il y ait. Je sais quoi qu'ils avaient envoyé des.
Des mises en demande.
Ouais, mais il y a pas
envoyé des monsieur. Ils ont envoyé les Pinkerton. Donc, les personnes qui servent à intimider les gens, des anciens des briseurs de grève ou ceux qui défendaient les briseurs de grève. Tu sais, comme les gens qui font la job des méchants, là.
À cause que quelqu'un a ouvert un paquet de cartes trop tôt.
Oui, c'est ça. Il y avait qu'on lui avait envoyé par erreur. Donc, c'était pas lui. qui a fait le truc. Il les a déballés en direct, puis il a fait « Wow, quelles sont ces cartes-là? » Et directement, les Pinkerton, les ont harcelés, ils ont fait pleurer sa femme. Lui, il disait qu'il allait finir en prison, puis plein de choses comme ça, alors que c'était un YouTuber enthousiaste sur Magic, et que c'est pas de lui devenait l'erreur. Donc, est-ce qu'ils vont s'attaquer à cette gang-là? C'est une méchante bonne question. Donc,
On viendra si on a des nouvelles plus tard, ou on l'écrira en dessous, mais ça peut être un risque, n'est-ce pas?
Ça pourrait être un risque.
Je suis pas un expert légal, mais ça peut être un risque où ils peuvent se faire acheter, où ils peuvent se faire... où ça peut bien se passer. Rendu là, on ne sait pas.
Ça se pourrait-tu que genre D&D trouve ça tellement fun qu'il dit « Ouais, c'est à nous maintenant, on vous l'achète? »
En tout cas, moi, s'ils font vraiment le fun, je l'achèterais.
Ouais, à date, la seule chose qui a été rentable pour Wizard of the Coast dernièrement, ça a été Baldur's Gate 3. Et la raison pourquoi ça a été rentable, c'est parce que Wizard of the Coast n'a rien eu à voir là-dedans. En gros, ils n'ont pas été dans la production. Oui.
Là, c'est sûr que si tu veux jouer au mode de Strahd, il faut t'acheter Baldur's Gate.
Oui.
Fait que déjà là, il y a un achat quelque part qu'il faut que tu fasses pour Wizard of the Coast.
Je veux dire, en général, les mods, il y a plein de monde qui font plein de mods d'affaires et ils ne se font pas poursuivre. Là.
Oui. Mais c'est pas Wizard of the Coast.
Mais c'est Wizard of the Coast. Donc, on vous donne des nouvelles là-dessus.
Ouais.
Pour ceux qui seraient intéressés à savoir, mais Travis là-dedans, qu'est-ce qu'il fait? Non, évidemment. Travis fait la musique. Donc, la trame sonore, il dit que c'est extrêmement difficile.
Ah ouais.
C'est quasiment pénible, si je comprends bien. Parce qu'il doit se retenir.
Ah ouais.
Oui, parce que sa musique, pour les personnes qui sont des fans de Travis Savoie, vont comprendre ça. Pour ceux qui ne sont pas, allez écouter sa musique. Arrêtez le podcast actuellement. Allez écouter sa musique. Revenez écouter le podcast après.
Elle joue dans le podcast, de toute façon, sa musique.
Il y a un peu de sa musique, mais la musique de la trame sonore de Curse of Strahd, particulièrement excellente.
Ouais.
Mais c'est pas celle-là qu'il va utiliser nécessairement. Mm-hmm. Donc, il doit créer de la musique qui n'écrase pas les autres sons. Donc, il doit vraiment se limiter sur le nombre d'instruments, sur l'intensité. Puis, on sait que sa musique peut avoir vraiment une tournure épique. Là. C'est vraiment un travail de composition. Il y a des musiques purement d'ambiance, mais il y en a plein que c'est vraiment des musiques de composition qu'on peut pas nécessairement runner une game sur ces musiques-là parce qu'ils sont, ils prennent beaucoup trop de place.
Ouais.
Donc, mais c'est un défi qu'il aime beaucoup à ce moment-là. Surtout que Travis Savoie est en train de regarder vers où il s'oriente pour le reste de sa carrière, pour le futur de sa carrière. Donc, il a réussi à avoir des gains qu'il n'aurait jamais pensé possibles il y a quelques années. Donc, les progrès qu'il a fait, il dit c'est incroyable, mais il a sensiblement réussi à atteindre la majorité de ses objectifs. Et il cherche le prochain défi. Et là, il y a deux pistes vers lesquelles il regarde. Donc, une des pistes, ça serait de faire de la musique dans le contexte de jeux vidéo.
OK.
Donc, à ce moment-là, c'est une très bonne expérience. Et l'autre, ça serait d'aller dans la composition et de la composition avec orchestre. Donc, probablement des petits ensembles pour commencer. Il a déjà engagé des professionnels pour certaines musiques, donc il sait c'est quoi travailler avec un ou deux professionnels pour des compositions, mais là, ça serait travailler avec des ensembles ou des orchestres. Donc, c'est vers là qu'il aimerait aller, mais ça, c'est tout un monde dans lequel sauter.
Incroyable.
Mais c'est un compositeur, il a déjà fait ses preuves.
Ah oui.
J'ai hâte d'entendre sa musique dans le podcast tantôt.
En théorie, en ce moment... on l'entendrait, c'est la petite musique de fond, très très bas.
Ouais.
Quand personne parle, on pourrait l'entendre.
Ah, il y a du Travis partout dans notre vie. C'est pas plus compliqué que ça.
Exactement. Donc, merci Travis pour ta trame sonore et on te souhaite de bons succès dans Project Strahd, dans aussi le futur de ta carrière. Et pour ceux qui se poseraient la question, oui, ces compositions qui vont avoir lieu et qui vont être dans Project Strahd vont pouvoir être obtenues, on va pouvoir les obtenir sur sa chaîne YouTube.
Parfait, ça. Sinon,
il
y a quelque chose aussi qui a mis en feu les internets. Et,
oui. Ça, c'est facile, ça. C'est...
Effectivement. Mais c'est quelque chose que j'ai essayé dernièrement, puis qu'on a commencé à parler, puis à mousser un peu.
Tellement parlé, là.
Je pense qu'il y a quelque chose qui se passe avec Sigil de Wizard of the Coast, qui est le moteur 3D de D&D Beyond pour pouvoir jouer à Donjons Dragons.
Exactement.
C'est sorti il y a deux semaines,
je pense.
Oui, c'est sorti il y a quasiment un mois, sans beaucoup de nouvelles. Donc déjà, il y a des gens qui disaient, il me semble que pour le gros projet de Wizard of the Coast, c'est arrivé très silencieusement et très subtilement. Il y a déjà des gens qui avaient des doutes sur qu'est-ce qui se passait. Il y avait, mais les théories allaient encore dans les deux sens. Donc, soit, oh, ça va vraiment mal. D'autres qui disent non, ils mettent ça pour avoir du feedback. Puis quand il va avoir le prochain Stranger Things, puis qu'il va avoir de la. Puis là, il va peut-être sortir des modes par rapport à ça, tout ça. C'est parfaitement ensuite enligné pour la période du temps des fêtes. Donc, il y en a qui pensaient que c'était vraiment une stratégie commerciale, jusqu'à temps que 90% du staff de Sigil soient renvoyés, perdent leur emploi. Et qu'il n'y ait pas beaucoup de nouvelles là-dessus, à part quelqu'un qui dit « Ah, je pense qu'au début, la première nouvelle qu'on avait, c'était quelqu'un qui avait perdu son emploi, qui était un lead sur ce projet-là, et qu'il allait vers d'autres projets, mais qui varvait, qui ne disait jamais rien contre Wizard of the Coast.
Okay. »
Il y a des personnes qui restaient prudentes et sinon, la majorité de l'Internet à ce moment-là, ça a vraiment explosé. Ça a vraiment été en feu, en effet, où est-ce qu'ils disaient « ça y est, c'est fini, tant de personnes, ils ont lâché, ils ont abandonné le projet. » Et c'est probable. La question qu'on peut se poser, par exemple, c'est qu'il faut être prudent, c'est ben autant de... Il y a beaucoup de d'industrie que quand ils finissent un produit, ben ils renvoient la majorité des personnes qui ont de l'équipe. C'est pas nécessairement des gens qui restent à l'intérieur de l'entreprise. Ils restent par projet. Puis on a vu ça avec Wizard of the Coast pour les livres. On a vu que quand les livres ont été produits, ben ils renvoient l'équipe des livres. Donc, au fur et à mesure.
J'imagine quand c'est quelque chose que t'as comme créé la base, le moteur, puis tout, puis que t'as pas d'intention vraiment de faire des suites ou de, t'sais, de continuer sur la. Peut-être, ça se peut, je sais pas, dans le monde du jeu vidéo, c'est peut-être quelque chose que. T'sais, un coup que tu as fait la base, tu gardes juste les emplois pour, mettons, faire des skins, faire du look.
Fixer les bugs.
Ouais, genre.
Je suis pas un expert en management puis en prise de décision pour une grosse compagnie comme Wizard of the Coast. Fait que c'est sûr que tout est de la spéculation tant qu'on leur demande pas à eux ou qu'ils font pas un statement officiel. Mais c'est sûr que faire de la maintenance, c'est toujours moins dispendieux que créer. Ouais. Créer, ça demande d'une force créative, ça le dit dans le nom. Mais une fois que ton produit existe, c'est sûr que c'est beaucoup plus. Je sais pas, moi pis toi, Ludo, on se fait un petit jeu indie ensemble, on va travailler dessus pendant plein de temps, on va faire toutes nos choses, puis une fois que le jeu y est terminé, si je le donne à Viviane puis qu'elle me donne des petits feedbacks, moi, de mon côté, je peux facilement aller boucher les coins par-ci par-là, j'ai pas besoin de la même force de travail que quand on avait besoin des deux pour brainstormer from scratch. T'sais. Fait que c'est sûr que pour Wizard of the Coast, je sais pas c'est quoi leur intention, j'ai aucune idée de c'est quoi leur futur, je veux pas prendre parti ou dire que c'est ça, mais ça peut aller dans un sens comme dans l'autre, c'est certain.
J'ai une seule chose à dire là-dessus. Hein?
C'est déjà arrivé. dans le fond. Ça arrive qu'il y a des compagnies qui font ça. Tu sais, quand même, quand ils ont fini toute la partie création, ben là, puis ils sont juste en partie maintenance, ça arrive qu'il y a du monde qui se font mettre de côté à la porte ou en même temps fin de contrat, là, j'imagine.
C'est comme n'importe quelle industrie, hein. Si ton contrat est fini, ton contrat est fini.
Donc, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est terminé.
OK.
Ceci étant dit.
Ouais.
Très, très récemment.
OK.
Il y a eu un leak qui a été rapporté par des journalistes sur l'actualité geek, qui ça serait le Rascal. Où est-ce qu'ils ont eu un leak et des témoignages comme quoi, à l'intérieur, le mémo qu'ils ont obtenu disait vraiment qu'ils décidaient de ne plus aller de l'avant vers l'expansion de Sigil et les ambitions de monétisation qu'ils avaient avec. Ouais. Donc là, soudainement, troisième explosion à ce moment-là, ça regarde vraiment mal. L'employé anonyme blâme le manque de leadership, de vision de l'équipe, qui souvent ne comprenait pas qu'il créait un VTT et non pas un jeu vidéo.
Ah ouais.
Ma question, oui? Là, c'est l'équipe qui créait le VTT, c'était une équipe qui faisait des jeux vidéo avant ou c'était une équipe qui faisait des VTT? Parce que comment ça, ils ne savaient pas?
Donc, l'équipe qui fait ça, eux, ils savent ce qu'ils font. Mais leur leadership, eux autres, donc ceux qui prennent les décisions, puis qui débarrent les portes qu'on a besoin dans une entreprise, eux autres, ils ne comprenaient pas nécessairement
que ce qu'ils étaient en train de demander
quoi
de faire.
Le produit, puis c'est quoi que ça impliquait? Parce que c'est différent de créer une plateforme qui sert à ce qu'on l'utilise régulièrement, puis qui a besoin de nouvelles tuiles, souvent de nouvelles... De
trucs pré-créés, mettons.
De nouvelles skins, options. Des décors, des nouveaux décors, par exemple. Ah ouais. L'article, la jungle.
Ah oui, acheter pour 15$ le mode de lave. Acheter pour 25$ le cimetière. Acheter pour 150$ tout plus un écusson en plastique bleu.
Oui, les microtransactions et tout, là. On voyait venir.
Mais tu sais, ça aurait pu avoir du sens. Hein, je veux dire, si tu mets ça sur un certain format qu'on est habitué, ça peut avoir du sens, les microtransactions.
Oui.
Et c'est comme un petit RPG Maker, là. Il y en a plein.
Ouais. C'est ça?
Ouais. Ouais, ouais. Puis,
ben ouais.
Il y en a d'autres des VTT qui existent. Puis je pense qu'il y en a qui vont se lancer dans le 3D. Alors, on va voir.
Ce qui est drôle, c'est qu'on dirait que ils se concurrencent eux autres même, genre.
Ah, t'sais, OK.
Il y avait comme starté un truc de carte, puis un truc avec les dés, puis un truc de création de tu sais, puis ça fonctionne pas très bien, leur truc de carte, le D&D Beyond Map, je sais pas trop comment c'est quelque chose même qu'ils l'appellent. Pour l'avoir essayé dans... la campagne avec Vecna, là. Ruin of... Ouais. Vecna, c'est ça?
Eve of Ruins?
Ouais, quelque chose, c'est ça, exact. À peu près toutes les deux ou trois rondes, ça plantait. Fait qu'on était plus capable de combattre puis quoi que ce soit, tu sais. Mais là, je me dis, peut-être parce qu'ils disent, oh, ça donne plus rien de consommer ça, on s'en va vers le 3D, tu sais. Mais en même temps, Le 2D, c'était, ça coûtait rien. Tu sais, je veux dire, c'était une carte puis tokens.
On va rentrer dans le monde de la spéculation, mais il y a des individus, quand ils regardent ça puis ils connaissent un peu mieux Wizards of the Coast, Hasbro puis les grosses compagnies américaines. Ouais. Et la façon de fonctionner puis de réfléchir, c'est que tant que t'es mieux d'essayer des choses puis d'échouer, que de rien de faire, puis de finir par faire des passes. Donc, il essaie des projets, il lance, il voit si quelque chose colle. Si ça colle pas, il passe à autre chose, puis il l'abandonne.
Sauf que, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis, mais un mois, c'est tôt pareil pour vérifier si ça colle. Sans trop de publicité, là.
Ce qui était. Oui, mais ça, c'est parce que. C'est. Il y aurait déjà eu un point tournant au Gen Con 2024, où est-ce qu'il y avait invité des stars comme Brennan Mulligan, ouais. Abri Iyengar et d'autres célébrités du monde de l'actual play américain. Et qui ont toutes été rassemblés pour faire une partie, que toute la première partie, l'échange entre les acteurs, c'était fantastique, mais que le jeu a planté pendant la démonstration, pendant la démo finalement, et que ça a un petit peu refroidi l'expérience.
Oh, ouais.
Et ça. Donc, déjà là, il y aurait un tournant, puis il y aurait eu moins d'enthousiasme, moins d'informations, puis le leadership. Ne répondait pas aux questions vers où qu'on s'en va. Qu'est-ce qui arrive? Okay.
Puis là, la fuite, on est sûr qu'elle est bonne?
Donc, la fuite, pour le journal Rascal,
ouais.
ou le blog Rascal, c'est des personnes qui utilisent des techniques journalistiques, donc ils vont essayer d'avoir plus qu'une source pour avant de publier une histoire. C'est ceux qui ont sorti le scandale de l'OGL. Donc, où c'est certains journalistes qui avaient publié ça. Donc, c'est probablement le plus crédible qu'on peut avoir sur Internet. Donc, quand on regarde des YouTubers, on peut avoir de tout. Là, à ce moment-là, c'est des personnes qui essayent d'avoir de la crédibilité journalistique. Oui.
Mais t'sais, je te mentirais pas que la façon qui est présentement, c'est Gilles, c'est pas prêt, là.
Ouais, c'est pas rodé, c'est pas prêt.
Non.
C'est ce qu'on avait l'impression. Écoute, s'il l'avait sorti et qu'il avait été extrêmement proche de la communauté, puis de prendre des feedbacks, je pense que ça l'aurait pu lever.
Ouais.
C'est sûr que quand t'as le backing de tes joueurs ou des gens qui veulent le truc, ça va marcher mieux. Là. C'est comme tu parlais il y a quelques secondes de ils ont fait une démo, leur jeu a crashé live, puis là les gens ils posent des questions. Ce qui fait mal selon moi, c'est pas tant que ça aille crasher live, que le fait que tu dis que les têtes en haut répondaient pas aux questions, viennent pas chercher. Ouais. Si t'es pas proche de ta communauté puis que tu t'embarques pas, veux pas, ça va avoir un coup là.
Il se sentait, donc selon l'employé, et c'est assez corroboré avec l'entrevue ou les multiples entrevues de Mac Myers, qui était un des co-leads sur la cinquième édition, il disait qu'à l'intérieur de Wizards of the Coast et Hasbro, c'est très, très hiérarchique. Il y a beaucoup de paliers, donc les personnes qui prennent les grandes décisions sont très loin du joueur. Puis même de l'équipe de création. Donc, tout ça, il y a des grandes distances. La communication est vraiment très lente et que ça crée des produits qui sont moins en contact avec la réalité en ce moment. D'ailleurs, c'est un sujet dont j'aimerais qu'on parle une prochaine semaine sur l'avenir de Wizards of the Coast versus les développeurs indépendants qui, eux autres, ont l'air de fleurir. Mais oui, c'est
intéressant comme nouvelle.
Si les leaks sont vrais, ça regarde mal pour Sigil. C'est peut-être la fin de notre VTT 3D dont on a tant entendu parler.
Ça aurait pu marcher. Moi, je te le dis, ça aurait pu. Ça a poussé un peu plus, là. Je pense que ça aurait pu marcher.
Ça peut encore. Faut juste qu'on l'utilise.
Ouais. Oh, oui. Mais là, présentement, c'est dur à utiliser. Là. Tu sais, là, c'est.
Faut qu'on scroll, hein, Ludo? Faut scroller.
Là, c'est long. Tu sais, il manque beaucoup de choses, là. C'est pas. C'est ça. Ça a l'air super, sérieusement. Les fiches, les bonhommes, le truc, les gels, tu roules tes dés, tu bouges tes bonhommes. Mais, tu sais, il faudrait qu'il y ait des choses déjà créées, là. Parce que là, s'il faut que tu crées tout from scratch.
Ben, si t'avais toutes les cartes de tes campagnes, ça aurait été incroyable, tout le monde aurait pris ça.
Oh, oui. Oh, oui.
Mais ça pourrait pas être fait, ça, par la communauté, ouais. Justement, un peu comme tu dis qu'ils font Mod of Strahd pour Baldur's Gate 3, là. Tu pourrais faire toutes les campaigns,
ouais. Tu pognes un groupe, là,
tu l'écris.
Ben oui, il aurait pu faire un système de ça, de, un genre de marketplace ou un truc que tu...
Il y a des personnes qui vont, dans ce cas-là, dire pourquoi je les fais pas dans d'autres trucs 3D que les créateurs sont très, très, très proches de la communauté, comme par exemple Telspire.
Ouais. Qui... Mais tu sais, comme des guildes. Il y a du monde qui envoie leur stock là au lieu de le faire. Ouais. Tu sais, je veux dire, des fois, ils... Mais bon, je me dis que ça aurait pu. Mais tu sais, je me rappelle, j'ai voulu. Faire une maison dans Sigil. Puis après ça, j'en ai fait une avec les Warlocks. Puis là, j'ai fait comme... Ouais. c'est genre 10 minutes. Puis l'autre, j'ai pas fini encore. Là. Fait que... Je suis comme... Ouais.
Bref, tu t'amuses plus avec long. Mais on n'est pas toutes des personnes qui vivent à Rimouski puis qui avons des super gros sous-sols où est-ce qu'on peut entreposer toutes nos maisons 3D, Ludo. Passons à un autre sujet. Donc, on parlait de jeux de rôle qui ouais. viennent dans le monde des jeux vidéo. Et il y en a un qui est légendaire. Tout le monde, au moins dans les jeux vidéo, souvent, on a entendu parler.
Ouais.
C'est un monument. C'est quasiment un meme. Comme quoi, il sortira jamais. Donc, Vampire The Masquerade Bloodlines, ça avait été un jeu qui était sorti en même temps, le jour même que Half-Life 2, et qui a eu un flop lamentable lors de sa sortie. Oh oui, oh, tu connais pas l'histoire. Le premier Bloodlines, à cause de... Et là, j'imagine que notre cher employé du monde du jeu vidéo ne peut pas faire de commentaire de à quel point ça a été un flop. C'était buggé. Écoute, s'il y a certaines races, pas races, clans de vampires que si tu les prenais, il y a des scènes qui buggaient puis tu pouvais plus continuer. Donc, tu sais, le genre de choses que, normalement, tu devrais avoir testé puis que ça devrait pas faire ça. Donc, il manquait beaucoup de peaufinage et finalement, mais ça l'a vraiment marqué la communauté quand même, et même si la maison qui ont créé le jeu, qui avait été chapeautée par Activision, qui a décidé de prendre des décisions de le sortir avant que le jeu soit prêt, même si cette compagnie-là est tombée, le jeu est devenu quelque chose d'assez légendaire, un des jeux les plus modés, des gens qui ont peaufiné, qui ont finalisé, qui ont... Donc, tu sais, quand on parlait de ressusciter quelque chose qui est mort, c'est vraiment quelque chose qui est arrivé avec Bloodline, puis c'est...
Ça tombe bien, c'est des vampires!
et c'est quelque chose qui a été assez... qui a quand même marqué l'univers des gamers.
Moi, je me rappelle que quand j'étais petit, j'ai joué à ce jeu-là, puis c'était vraiment, vraiment cool. C'est vrai qu'il y avait plein de bugs. C'est vrai qu'il était assez...
On avait vraiment aimé ce jeu-là. Il avait réussi à sortir beaucoup de choses du lore de Vampire et de donner vraiment une bonne atmosphère à l'époque comme jeu, en plus. C'était quelque chose. Et là, le mime, c'est à quel point Bloodlines 2, ça prend du temps pour sortir. Parce que projet a été appelé plusieurs fois, cancellé plusieurs fois. Là, l'équipe qui est en train de le faire en ce moment a repoussé à plusieurs reprises le jeu vidéo, alors qu'il avait donné des dates de sortie. Alors maintenant, on a une nouvelle date de sortie. Oui, t'allais dire.
J'allais dire, est-ce que vous connaissez Duke Nukem Forever?
Non.
C'est la même histoire. Puis c'est plus vieux encore. C'est le jeu qui était censé sortir après Duke Nukem 3D. Puis il est sorti il y a 4 ans, je pense.
Oui, oh non!
Hey. Ils l'ont repoussé, repoussé. Ça a pris tout.
Ben là, Duke Nukem 3D, on jouait sur des modems qui faisaient bip, bip, bip. Là.
Il a été obligé de le refaire plusieurs fois parce que la technologie avait changé entre-temps.
Oh. Oh mon Dieu, quel échec.
Moi, je pense que c'est la même chose.
Forever?
Oui, c'était le meme pendant un temps. Ah. Ça va prendre forever de sortir. C'est pour ça son nom. Pendant longtemps, en fait, c'était rendu quasiment un meme ou C'est un peu comme Half-Life 3, là. Half-Life 3 qui sortira jamais. À la différence que lui est en production, puis Half-Life 3, as far as we know, il n'y a pas de production.
Oui. Ben, Bloodlines 2, il y a une production.
OK.
Sont rendus à la fin, en train de faire du peaufinage.
Ah, OK.
Ils ne veulent pas leur sortir trop vite. Je pense que la maison de production, c'est The Chinese Room, qui ont décidé de prendre plus de temps pour le finaliser. C'était censé sortir il y a quelques années, l'année dernière, et maintenant, on aurait une date qui serait octobre 2025.
OK, cette année. Eh bien.
Ouais, ça serait le fun. Donc, beaucoup de fans du jeu Vampire, je pense qu'ils aimeraient ça. Si vous n'avez pas été voir les vidéos du jeu, des gameplays, ça vaut la peine. C'est incroyable, la technologie, les graphiques, le feeling.
Je vais aller voir.
Donc, ça va être avec le lore le plus moderne, ce qui veut dire avec la Seconde Inquisition, les clans qui ont... les grandes sectes, où est-ce que les clans ont changé d'allégeance. Donc, il y a eu beaucoup de changements, puis si j'ai bien compris, c'est ça qu'ils vont chercher comme lore. Donc, le lore de la cinquième édition, V5. Ça a l'air assez prometteur, assez intéressant.
On va voir.
En tout cas, moi, s'il sort, je vais jouer.
Non, je vais jouer, là. Des fois, j'ai le goût de jouer au vieux, que je suis sûr que ça me frustrerait, là. Mais, puis, j'ai roulé une campagne de Bloodline dernièrement, donc l'année dernière, et le monde se sont vraiment amusés. Ça a beaucoup de potentiel comme
c'est matériel. Quoi, Bloodline?
C'est quoi Bloodline? Va regarder, là. Je vais pas t'éduquer okay. sur le monde des jeux vidéo. Bloodline, Vampire Bloodline, c'est le truc dont on parle depuis tout à l'heure.
Non, je vois. OK, c'est le jeu. Je pensais qu'il y avait peut-être un truc. Une époque qui était liée avec Bloodline ou tu sais.
Non, Bloodlines, okay, okay. C'est. Vampire the Masquerade, Bloodlines, c'est le jeu vidéo est sorti dans les années. Ben, en même temps qu'Half-Life 2, donc ça devait être au début des années 2000.
OK. Je comprends. Je pense que c'était une époque dans. Ou un style de vampire de mascarade, là, mettons Bloodline, c'était en 1900 quelque chose. Je sais pas.
Ils ont sorti des éditions qui sont en différentes époques. Ouais. Mais Bloodline était autour des années 2000 et.
2004 pour être exact.
Okay.
2004. Et Bloodline 2 serait à une époque plus moderne dans les années 2020 et passé ça et. Donc, on va voir. Qu'est-ce qu'il y a?
Tu as quelque chose à rajouter?
Oui, j'ai des choses à rajouter, mais pas sur ce sujet-là, Ludo.
Ah, OK. Son hack de la semaine?
Écoute, j'aimerais d'abord te dire, Ludo, à quel point j'ai été sage. On est de l'épisode 5.
Ouais.
Tu m'as jamais encore entendu parler de... J'ai pas dit un seul mot sur Dark Vision, donc la vision nocturne.
Non.
Non, j'ai absolument rien dit à date là-dessus. Ben, mon hack la semaine concerne Dark Vision. Alors, je recommande tout simplement comme hack d'enlever Dark Vision complètement. Même si ça enlève Ludo de vos parties, je vous recommande d'enlever cette feature-là ou du moins.
C'est quoi cette affaire-là?
Ou du moins de la modifier.
OK.
Donc, j'espère qu'il va y avoir des combats dans les commentaires, donc battez-vous. Mais voici la réflexion. Parce que Dark Vision, dans la partie, soit ça ajoute rien, soit ça enlève tout.
Mm-hmm. Pourquoi?
Donc, quand dans une partie, tu admettons que tu roules une campagne et que les ténèbres n'ont jamais d'impact sur la partie. Si t'es dans un donjon, il est toujours illuminé. Ou ça se passe le jour. Bref, jamais tu vas jouer avec la lumière dans ta partie. Dark Vision, à ce moment-là, est simplement pas utile. N'est-ce pas?
Ben, le monde sont supposés voir en gris.
Oui, mais là, on parle dans une game où est-ce qu'on joue pas avec les nuances de couleur, n'est-ce pas? On joue pas avec la lumière, excuse. Si jamais t'as besoin de torches, de lampes et tout ça, Dark Vision est complètement inutile, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de games où est-ce que c'est très rare qu'on est dans l'obscurité. Donc ça, si jamais dans une partie, tu veux jouer sur l'obscurité, Dark Vision t'enlève beaucoup. C'est pas Dark Vision en tant que tel. C'est le fait que toutes les races sont presque longues. Et que ça enlève quelque chose
à la nuit, ténébreuse.
Ça enlève quelque chose à la nuit, au ténébreux, au fait que les monstres, voient.
Ouais.
Que eux, les monstres, voient dans le noir. Donc ça,
ça fait
enlève...
que le prédateur est cheap, c'est ça que tu veux dire. Là.
Ouais, le prédateur est vraiment cheap, Ludo. Puis je sais qu'il y a des personnes qui vont dire « Ah, ben là, tu vois que des nuances de gris, donc tu vois pas parfaitement bien. »
Exact.
Mais...
T'as-tu joué à Baldur's Gate 3 quand t'as Dark Vision pis que tout est en nuage de gris?
C'est pas en nuage... C'est-tu en nuage de gris?
Oui.
Ah ouais?
Puis c'est... faudrait que je revérifie, là, parce que là, tu mets un doute dans mon esprit.
Mais... c'est parce que j'ai joué une elfe pis je voyais tout le temps très bien, me semble.
Ouais, mais tu vois très bien en nuage de gris aussi.
Ah ouais?
Mais le point est que si jamais tu veux jouer... avec les ténèbres, Dark Vision, ça te l'enlève. Dark Vision enlève aussi à plein de choses, plein d'éléments qui sont dans les parties. Donc, les torches, les lampes, s'il y a déjà des éléments de lumière, les sorts qui créent de la lumière, ça enlève des choses au sort Dark Vision.
Ouais.
Tu sais, c'est le fait que tu dois faire ce sort-là pour donner cet avantage-là à quelqu'un. Ou s'il y avait une lignée qui, elle, avec Dark Vision, c'est ça sa spécialité. Mais quand c'est toutes les lignées, ben c'est comme aucune lignée. Ça a fait juste enlever le plaisir de pouvoir jouer avec des ténèbres.
Écoute, j'en profite, OK? On parle de jeux vidéo, OK? Avez-vous joué, dans le temps, le vieux jeu de Medio Beranzan? Où c'est qu'on jouait genre Driss, me semble?
Non.
Bon. Dans ce jeu-là, qui était genre... un peu après Eyes of the Beholder, c'est... tu jouais Dritz, puis il pouvait switcher, comme le Prédateur, c'est Night Vision. T'avais ta Night Vision que tu voyais en gris, que c'était super tough quand tu te battais contre des araignées, quand tu te battais... puis trouver les pièges à faire de même, là, c'était l'enfer. T'sais, tu mangeais les pièges à la gueule, c'est pas parce que tu vois en gris que tu vois pas le piège. Fait que, t'sais,
ensuite, tu vois, mais tu manques de détails.
Ouais. Puis là, tu pouvais le switcher en thermal vision, en vision que tu voyais les effets de chaleur. C'était écœurant. Parce que là, tu savais les ennemis, mais il y a des ennemis qui avaient le sang-froid. Un peu comme, je pense qu'il y avait ça dans les livres. Fait que là, ces ennemis-là, tu les voyais comme presque pas quand ils étaient cachés. Fait qu'il y avait des ennemis qui étaient littéralement des ennemis qui étaient comme considérés comme des prédateurs, parce que quand ils étaient en gris, tu les voyais pas, parce que c'était la couleur qu'il y avait. Il n'y avait pas de thermo machin truc parce qu'il était à sang froid ou sans je sais pas quoi en tout cas qui faisait qu'il n'y en avait pas. Fait que la seule façon que tu pouvais voir, c'était en allumant une torche. Tu allumes une torche, toute Medio Beranzan ou presque te voyait, puis où tu faisais des lumières, tu sais, les sorts qu'il y avait.
Ouais.
Fait que tout le temps, même si tu avais le plus puissant des Dark Vision de la planète, il fallait que tu utilises à bon escient. Ben sinon, tu te mettais dans la merde. Puis si tu te laissais sur un mode de vision, Dark Vision, puis il y avait une lumière qui allumait, tout était rendu blanc ou tout était rendu... Tu voyais plus rien, tu sais. Fait que là, les ennemis pouvaient encore plus te bâcher.
Mon Dieu, t'es-tu en train de parler de Splinter Cell? Ouais.
Comment?
Ça ressemble vraiment à Splinter Cell, là. Ouais, où genre, est-ce que t'as le casque, puis tu changes les types de vision, puis il faut pas qu'il y ait un éclair ou un
Splinter Cell, encore le casque, c'est les yeux à Dritz. Tu savais pas,
ouais,
mais c'est ça qu'ils ont fait.
Ouais, ça ressemble beaucoup.
Mais juste pour dire que, au lieu de l'enlever, si tu le pénalises quand il y a de la lumière, tu sais, si tu fais qu'il faut que tu switches, puis là, mettons que tu te promènes avec ton Dark Vision, tout, puis il allume une torche, tu vois plus rien. Fait que là, faut t'attendre un peu de temps, ou tu sais, 3 rounds, 4 rounds, le temps que ta vision revienne, tu sais, parce que là, t'es comme. Comme si ça serait une flashbang.
Ouais, mais là, t'es d'accord avec Flamme qui veut absolument modifier Dark Vision.
Mais moi, c'est l'enlever que je ferais pas.
Ouais, donc toi, tu le modifierais.
Ouais.
Ouais, ben, je suis d'accord avec le modifier. Ceci étant dit, avec ce que tu dis, ça m'a l'air quand même beaucoup de gestion, de tracking.
C'est sûr.
Puis je l'enlèverais quand même à plusieurs lignées. Mais bref, je pense que ça peut être une bonne idée de s'asseoir avec ces joueurs, puis si vous voulez jouer sur les ténèbres dans votre partie, d'avoir une conversation sur qu'est-ce que vous faites avec Dark Vision, parce que ça peut vraiment enlever beaucoup d'options à la partie ou de pouvoir aller chercher certaines fantaisies. Il y a certains systèmes qui se brisent pas la tête. Shadow Dark, t'as pas Dark Vision.
Non, ça c'est sûr.
T'as aussi Daggerheart qui a pas de Dark Vision. T'as beaucoup de jeux où est-ce que tu ne vois pas dans les ténèbres. Et c'est à ce moment-là, justement, les ténèbres prennent tellement plus de valeur.
Les jeux qui sont plus fantasy que fantasy héroïque.
Fantasy. Dark fantasy, un peu l'OSR-esque, va bénéficier souvent de ces mécaniques-là. Ou sinon, si c'est juste un obstacle de jamais vraiment faire gaffe à cette ténèbre, c'est quand même un penser si bien puis de discuter. Ou si tu veux te relancer dans un système à la Splinter Cell, c'est ça que les joueurs trouvent amusant, ça vaut peut-être la peine d'avoir cette conversation-là.
Excellent. Ben merci. Merci d'être venu, David.
Ça me fait plaisir.
Ça a été des révélations pour moi de plein de choses que je savais pas. Des choses assez intéressantes. Puis,
J'écoute votre podcast à date depuis le premier épisode, puis je trouve qu'il y a beaucoup de choses que tu sais pas.
Non, effectivement. c'est ça le concept.
Je pense qu'on va faire venir Dave. On va faire venir Dave juste pour qu'il puisse te roaster comme ça chaque épisode.
Ah oui, non, je suis comme celui qui écoute le podcast. On apprend. On apprend avec flamme. Ça va changer de nom. C'est apprendre avec flamme.
Donc, dans votre prochain épisode de Apprendre avec Flamme,
on sait pas encore quoi.
On se dit à la prochaine.
Yes.